With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro à J-1 du choc PSG-Bayern. On reviendra en long, en large et en travers sur ce match avec Elton Mokolo et David Lortolari pour nous présenter les dynamiques actuelles du Paris Saint-Germain, très inquiétante, et celle du Bayern Munich. On enchaînera ensuite avec l'Angleterre, Philippe Auclair qui nous parlera de la course au titre et du choc qui se prépare mercredi, Arsenal-Manchester City. Attention les yeux. Et on terminera ce Tour d'Europe avec un cas qui crispe la Juventus Turin. Paul Pogba va-t-il rejouer au football cette saison? Guillaume Maillard-Pacini nous expliquera les coulisses de cette absence. Tour d'Europe est à retrouver en podcast tous les lundis sur vos plateformes d'écoute. Si vous tapez Eurosport FC, vous aurez le droit en bonus au FC Stream Team tourné tous les vendredis. Et évidemment, si vous voulez voir les meilleurs moments de cette émission, rendez-vous sur eurosport.fr. Tour d'Europe, c'est parti. Et on commence ce Tour d'Europe avec la Ligue 1. On accueille Elton Mokolo, notre spécialiste du championnat de France. Un bon petit week-end de Ligue 1, Elton. Hein.
Bonjour Cyril. Alors là, pour le coup, on s'est régalé en Ligue 1. Il y a eu beaucoup d'enseignements positifs d'un côté, négatifs de l'autre pour certains clubs. Mais il y a beaucoup de choses à dire encore une fois.
Alors, on va commencer par la fin de cette journée de Ligue 1 et cette victoire lyonnaise face au RC Lens, portée par un Ryan Cherki des grands soirs. C'est surtout la victime du jour qui m'intéresse, Elton, à savoir Lens, qui a donc quitté le podium de Ligue 1. Désormais, c'est Paris, OM, Monaco. Est-ce que c'est le trident qui va aller au bout? Est-ce qu'on a là le podium de Ligue 1 déjà dessiné en fin de saison?
Par rapport au synopsis qu'on pouvait se faire en début de saison en ce qui concerne la Ligue 1, par rapport à la force économique et sportive des clubs, c'est logique. C'est logique de voir le PSG, bien évidemment, l'Olympique de Marseille et Monaco. Lens, on aurait pu penser qu'à la faveur de la dynamique sportive qui avait été très bonne jusqu'au mois de janvier, aurait pu faire la course. D'ailleurs, ils continuent de faire la course pour le podium. Ils sont qu'à un point de Monaco, ils sont à 3 points de l'Olympique de Marseille. Donc, rien n'est perdu. Mais par rapport à la dynamique récente du RC Lens, qui est davantage une équipe attendue, force est de constater que Lens n'arrive pas à répondre notamment à cette problématique qui veut que les adversaires te laissent moins d'espace, te laissent beaucoup plus l'initiative du jeu et tu n'arrives pas à marquer ta domination. Et là, pour le coup, encore une fois, c'est une défaite. Il faut savoir que Lens en Ligue 1, c'est seulement 2 victoires en 2023. Mmh. Le PSG, bien évidemment, et Auxerre, les deux à domicile.
Ouais, ils sortent aussi sur les 5 derniers matchs, il y a déjà 2 défaites. Paris, un peu le même bilan que Paris sur les 5 derniers matchs avec 2 défaites en Ligue 1. À l'inverse, les dynamiques de Marseille et de Monaco sont absolument dingues, notamment celle de Monaco qui est sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Est-ce que ces dynamiques peuvent s'enrayer, étant donné qu'on arrive dans une semaine européenne? On sait que Monaco est engagé, que Paris est engagé, mais que Marseille et Lens auront des calendriers plus favorables. Est-ce que ça va jouer fatalement dans cette course au podium?
Davantage pour Monaco, peut-être, parce que Monaco, il y a la variable Europe, double confrontation face à Leverkusen, et auquel cas, ça pourrait avoir un impact positif ou un impact négatif. Après, il ne faut pas oublier que Monaco, même si c'est 20 points sur 24 possibles, on n'a pas oublié ce qui s'était passé avant la Coupe du Monde, avant la trêve, où ils étaient capables d'avoir des performances qui étaient suspectes. Là, pour le coup, il y a une amélioration des résultats, il y a un contenu qui est beaucoup plus convaincant avec cette victoire contre le PSG. Donc, je pense que l'Europe peut avoir un impact, mais Monaco est capable de gérer ça.
Et à l'inverse, est-ce que Marseille, qui n'est qu'à 5 points entre guillemets du Paris Saint-Germain, qui ne jouera pas de Coupe d'Europe, est-ce que Marseille peut le faire? On le dit tout bas, mais est-ce que Marseille peut être champion de France et battre le PSG qui est moribond en ce moment et qui pourrait même connaître une crise XXL en cas d'élimination en Ligue des Champions?
Ce qui est intéressant, Cyril, c'est que par exemple, Jonathan Clauss a parlé du titre sans aucun tabou. Ouais. C'est-à-dire que du côté du vestiaire de l'Olympique de Marseille, alors bien évidemment, la qualification en Ligue des Champions demeure la priorité, ça il n'y a pas de souci, mais à côté de ça, l'appétit vient en mangeant. Et force est de constater que pour un sportif, chercher la place supérieure, c'est l'objectif. Et donc par rapport à ça, pour l'Olympique de Marseille, aller chercher le titre, je reste persuadé que le PSG est le grand favori et va aller au bout, mais à côté de ça, l'Olympique de Marseille a le devoir de faire la course jusqu'au bout. Alors il y a un match dimanche prochain face à Toulouse. Toulouse qui est quand même la meilleure attaque des cinq grands championnats en 2023. Ça, il faut quand même le préciser, au Stadium, avant d'attaquer de nouveau un classique. Mais pour l'Olympique de Marseille, où aujourd'hui le titre est un...
doit devenir un objectif.
Après, tout ça, c'est une question de sémantique, parce qu'on dira, l'Olympique de Marseille, comme je l'ai dit, la Ligue des Champions, c'est important, mais à côté de ça, il n'y a que 5 points d'écart.
Bon, bah, la Ligue des Champions, on y arrive, Elton, évidemment, puisque la Ligue 1 cède sa place à la compétition Rennes cette semaine du football européen. Le Paris Saint-Germain qui reçoit mardi le Bayern Munich au Parc des Princes. Et le PSG qui est en crise, tout simplement. Est-ce qu'il faut, on en parlait déjà la semaine dernière, est-ce qu'il faut s'attendre au pire pour le PSG face au Bayern mardi ?
Pour le coup, moi, Cyril, samedi, j'ai été abasourdi parce que, si tu veux, j'ai entendu les mots inquiets, j'ai entendu les mots union sacrée, j'ai vu des images, Kimpembe qui va se présenter avec un mégaphone face aux supporters, j'ai vu les supporters du PSG qui, le lendemain, se sont présentés au courant des loges. Si tu veux, ces images, ces mots sont associés à une équipe qui se bat pour le maintien en Ligue 1. C'est une réalité qui serait beaucoup plus adaptée à la réalité d'Angers, d'Auxerre. Le PSG reste leader de Ligue 1, va attaquer un huitième de finale. Mais ça décrit bien l'ambiance qui est délétère, il n'y a pas d'autre mot, du côté du PSG, avant d'attaquer un huitième de finale où il y a beaucoup de pression. Et donc, force est de constater que même si un Kimpembe a dit quand même en zone mixte qu'il n'y avait pas de crise et qu'il ne faut pas jeter à la poubelle, et là, pour le coup, on ne peut pas lui donner tort, ce qui s'est passé il y a six mois, parce que le PSG a été longtemps invaincu. Force est de constater que au moment où ça affronte le Bayern, moi, j'ai le sentiment, j'ai la conviction que, au sein même du vestiaire parisien, on a l'impression que le Titanic va s'avancer vers l'iceberg bavarois, alors qu'il reste qu'il y a deux matchs de Coupe d'Europe.
Qu'est-ce qui est le plus inquiétant ? Ce qui se passe sur le terrain, à savoir, on ne retrouve plus du tout le Paris Saint-Germain du début de saison, un manque d'intensité criant, une relation technique entre les joueurs qui s'est effritée, ou les attitudes qu'on a pu voir, celles de Neymar, celles de Vitinha, celles d'Ekitike aussi un petit peu résigné. C'est quoi le plus inquiétant ? Est-ce que c'est le plan de jeu ou c'est déjà dans les têtes de réparer ce qui est réparable ?
Là, pour le coup, on est sur un cercle vicieux, parce que ce qui se passe sur le terrain a un impact négatif sur ce qui va se passer dans le vestiaire. Parce que si tu gagnes, tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Par contre, si tu commences à perdre, les égos vont prendre le pas. On a vu la scène surréaliste entre Vitinha et Neymar qui, pendant de longues minutes, ne se sont pas dit que des mots d'amour. Et donc, par rapport à ça, bien évidemment, le terrain a un impact quand même considérable sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, par rapport à ça, il faut que le PSG retrouve de la sérénité. Ouais. C'est pour ça que les 72 heures entre Monaco et le Bayern sont pour moi 72 heures charnières pour Christophe Galtier, parce qu'il va falloir faire un travail mental pour se dire que, OK, le PSG est dans une mauvaise passe. Il y a eu élimination en Coupe de France contre Marseille. Il y a eu défaite cuisante face à Monaco. Mais maintenant, il faut se tourner vers l'avenir et surtout vers le présent. Le présent, c'est quoi ? C'est un huitième de finale face au Bayern. Si tu veux, Cyril, si tu arrives à 99% contre le Bayern, tu risques de prendre une valise. Donc, il faut être à 100% mentalement, physiquement et techniquement.
Tu as parlé des têtes sur le terrain. Il y a peut-être aussi une réorganisation tactique qui peut se prévoir de la part de Galtier, qui a parlé de la possibilité de revenir à trois défenseurs. Quel 11 il faut aligner pour toi face au Bayern ? Est-ce qu'il faut refaire confiance à Ekitike, ou à l'inverse, est-ce qu'on envoie des gens qui sont rodés à ces combats-là ? On part avec une ligne Danilo, Marquinhos et Sergio Ramos, un milieu de terrain renforcé avec l'incorporation de Ruiz aux côtés de Verratti et Vitinha, et laisser un petit peu les talents devant Neymar, Messi, se débrouiller tout seul, entre guillemets. Est-ce que ce serait la meilleure compo possible pour le PSG ?
Aujourd'hui, pour moi, Cyril, Galtier a un devoir de synthèse. De synthèse, pourquoi ? Parce qu'il y a des performances individuelles qui posent question, et pas seulement Ekitike, mais je fais référence à Neymar qui est passé à côté de son match face à Monaco, mais Neymar devrait être titulaire face au Bayern. Et surtout, au niveau du dispositif, Galtier tâtonne. Ouais. Parce qu'on l'a vu utiliser plusieurs systèmes, la défense à 3, le 4-4-2 à plat face à Reims, qui n'a pas été vraiment concluant, le 4-4 de Losange plus récemment, qui n'est pas non plus concluant. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucun système qui se dégage. Et donc, il y a aussi les états de forme individuels qui ont un impact sur le collectif. Ouais. Donc, moi, je ne serais pas surpris que Galtier utilise de nouveau, par exemple, la défense à 3 pour retrouver une certaine assise défensive pour donner davantage de latitude aux Pistons qui auront un rôle qui sera quand même déterminant, chez référence à Hakimi, chez référence à Nuno Mendes. Ouais. Et par rapport à ça, avec Neymar et Ekitike qui seront devant. Et après, il y a aussi quand même l'interrogation, parce que ça commence à se faire de plus en plus pressant, quid de Kylian Mbappé.
Aussi.
Kylian Mbappé, on annonce qu'il serait dans le groupe, mais est-ce qu'il serait à 100%? Je ne pense pas. Et je pense que moi, dans la perspective déjà du match retour, mais aussi de ce qui va se passer en Ligue 1, il faudrait préserver Kylian Mbappé. Mais maintenant, il y a un tel niveau d'anxiété du côté du PSG qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, je pense qu'il va arriver en tant qu'héros providentiel.
Ce qui peut lui mettre un petit peu plus de pression aussi, mais on sait qu'il adore ça.
Ah ça, il adore ça, Kylian Mbappé, ouais.
Et ben merci beaucoup, Elton, pour ce passage sur le Paris Saint-Germain. Sans surprise et sans transition, on va passer au Bayern Munich. On rejoint David Lortolari en Allemagne pour nous parler de l'adversaire du PSG. Nous voici donc en Allemagne à J-1 du choc PSG-Bayern au Parc des Princes. On accueille David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga. David, le Bayern a préparé de manière optimale son déplacement au Parc avec cette victoire face à Bochum 3-0. Nagelsmann n'était pas totalement satisfait, mais quand on voit l'état actuel du Paris Saint-Germain, on relativise les difficultés connues par le Bayern depuis le début de saison. Enfin, même depuis début d'année, pardon.
C'est vrai. Depuis 2023, ça a surpris en Allemagne cette sortie un petit peu cassante, un petit peu radicale de Julian Nagelsmann après le match, qui a expliqué qu'il y avait eu 6 bonnes minutes d'entrée de jeu contre Bochum. Derrière, il y avait eu 60 minutes médiocres et puis on avait bien fini. Je ne sais pas si j'ai mis tout dans l'ordre, mais vous aurez compris qu'il a été très critique, Julian Nagelsmann. Ce n'est pas nouveau. Il est toujours critique vis-à-vis de ses joueurs, vis-à-vis de ses propres performances aussi à lui comme coach. C'est peut-être un moyen aussi de garder son effectif, de garder les Allemands conscients qu'on va changer de dimension, bien sûr. On ne peut pas livrer la même prestation contre le Paris Saint-Germain qu'on a livré contre Bochum, a-t-il dit, parce que sinon, ouais, ça ne va pas suffire. Et effectivement, il y a toujours des choses à améliorer. Il y a beaucoup de joueurs encore qui ne sont pas tout à fait dans leur forme optimale. Hein, il y a Goretzka, il y a Kimmich, qui n'était pas là parce qu'il était suspendu. Mm-hmm. Il y a Gnabry, il y a plein de joueurs. Thomas Müller n'est pas à son top non plus. Il y a plein de joueurs qui ne sont pas à leur maximum. Donc, c'est aussi intéressant de voir un entraîneur exigeant et qui se méfie de la marche forcément qu'il y a à gravir entre l'ordinaire du championnat et la Ligue des Champions.
On en parlait juste avant avec Elton, on a l'impression que le PSG aborde ce rendez-vous dans la pire dynamique possible, en crise complètement. Le Bayern, à l'inverse, a corrigé pas mal de choses. Est-ce que en Allemagne, j'imagine qu'on regarde ce qui se passe au PSG et qu'on se dit quand même, là, le Bayern est largement favori, ou on ne tombe pas dans cet excès-là?
On ne tombe absolument pas dans cet excès-là. Les émissions dominicales ont en long et en large reparlé des qualités hors normes des joueurs du PSG, même si on a bien noté que certains pourraient être absents. Mais le Bayern se méfie beaucoup de la qualité individuelle Weltklasse-Mannschaft, on dit en Allemagne, c'est-à-dire une équipe capable de livrer des prestations de niveau international, mondial, ouais, ce Paris Saint-Germain. Donc il y a cette méfiance-là. Et je ne crois pas que ce soit de la politesse. C'est simplement que, encore une fois, on sait que le Bayern est perfectible, que Nagelsmann, il faut qu'on en dise aussi un mot, va avoir affaire là au match le plus important, à la double confrontation, ouais, la plus importante peut-être de sa carrière d'entraîneur. Il a eu le droit la saison dernière à l'accident contre Villarreal, accident entre guillemets, mais il y a eu cette élimination prématurée en Ligue des Champions pour, mmh, le Bayern. Une deuxième saison avec cette élimination, si elle devait advenir en huitième de finale, Nagelsmann se retrouverait très très fragilisé. Donc pour lui, c'est aussi un terrain un peu nouveau, un territoire un peu nouveau, et il a la pression de bien faire face au Paris Saint-Germain. C'est peut-être ça aussi qui fait que les Allemands sont un peu, ouais, sont encore un petit peu sceptiques, Cyril. Et puis c'est aussi que, oui, les performances sont en hausse. Il y avait eu 3 nuls début 2023, il y a 3 victoires derrière, mmh, mais l'équipe ne montre pas encore son image habituelle de surpuissance, de surdomination par rapport aux adversaires. C'est intéressant, ça progresse, mais ce n'est pas encore un Bayern irréprochable du tout, loin s'en faut.
Alors, à quoi il faut s'attendre sur le 11 de Nagelsmann pour ce match? On a regardé celui contre Bochum, on n'a pas tout compris de l'extérieur, avec Goretzka seul devant la défense et grosso modo des attaquants et Cancelo. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de joueurs offensifs. A priori, ce serait une équipe un peu plus équilibrée au Parc des Princes, potentiellement en 4-2-3-1 avec un double pivot Kimmich-Goretzka. C'est quoi un petit peu les points chauds de la compo de Nagelsmann pour les heures qui viennent?
Eh bien, on peut peut-être éclairer ça à l'aune de la tactique, parce qu'on s'est aperçu que le Bayern, sur ce match contre Bochum, avait fait quelque chose qu'il faisait très peu, c'est-à-dire se projeter en nombre et très vite en contre-attaque, en ayant une fois qu'on avait récupéré le ballon. Et ça, c'est un peu nouveau et c'est intéressant, parce que contre un Paris Saint-Germain qui va sans doute par moment, surtout au Parc des Princes, avoir le ballon, je pense que Nagelsmann a voulu travailler à l'occasion de ce match, cette répétition générale, ces scènes de jeu où vous récupérez le ballon proche de votre surface de réparation et vous devez vous projeter. Ouais. Et c'est pour ça que les joueurs très rapides, il y en a au Bayern, Gnabry, Sané, Alphonso Davies en particulier, on peut ajouter Kingsley Coman, ça fait 4. On aura rarement les 4 sur le terrain en même temps, mais ces 4-là peuvent se projeter très vite en contre-attaque. Et donc, c'est une option intéressante. Ça ne sera probablement pas l'option de départ. Et donc, effectivement, Cyril, on doit s'attendre à le double 6, les deux milieux défensifs. Je crois que Kimmich, Goretzka, c'est en pôle. On pourrait avoir un Moussiala un peu reculé aussi. Mais Nagelsmann aimerait profiter, je pense, des qualités de Moussiala, surtout très offensivement. Mais oui, un 4-2-3-1, ça paraît équilibré, ça paraît normal au départ. Il faut garder à l'esprit qu'il y a toujours la possibilité d'une surprise avec trois défenseurs, parce que Pavard à droite, Upamecano et De Ligt, ça fonctionne très bien. Il l'a testé plusieurs fois. Les défenseurs centraux, les trois qu'on vient de citer, sont en performance en hausse, surtout les deux derniers. De Ligt et Upamecano, donc c'est une option qu'il peut se garder aussi, et ça voudrait dire dans ce cas-là qu'on est Cancelo d'un côté, Alphonso Davies de l'autre, pour proposer des solutions sur les ailes. Donc quelques incertitudes quand même sur la compo, mais évidemment Nagelsmann prendra moins de risques que contre Bochum.
Ouais, quelques incertitudes, mais beaucoup beaucoup de joueurs qui reviennent au sommet de leur forme. Un dernier petit mot peut-être, David, tu nous confirmes qu'on va revoir Eric Maxime Choupo-Moting au Parc des Princes? Ce sera le titulaire du Bayern en pointe, il n'y a pas de question.
Oui, il n'y a pas de question, parce que autant Thomas Müller s'est trouvé peut-être un nouveau rôle, avec un peu moins de temps de jeu, avec un rôle un petit peu de joker, comme on dit en Allemagne, pour proposer d'autres choses, un peu de fraîcheur peut-être en cours de match, autant je vois mal Nagelsmann se priver à la fois de Müller, de Moussiala ou de Müller Sané ou de Müller Gnabry ou de Müller Coman, et Choupo-Moting en attaque, il est parfait non seulement pour fixer les défenseurs, pour ce jeu en remise pour lequel il est quand même, il excelle, et puis il est quand même très adroit aussi, malgré les moqueries du temps de son passage au Paris Saint-Germain. Il fonctionne très bien, il a un peu moins d'efficacité, Cyril, que en fin d'année 2022 où il enchaînait les buts, mais il reste encore très utile à l'équilibre de cette équipe. Donc, je pense que c'est une option numéro un pour la compo de départ, avec donc Moussiala, Kimmich, Goretzka dans l'axe derrière lui.
Et ben voilà, vous savez tout sur PSG Bayern mardi soir au Parc des Princes. L'autre choc cette semaine, il se passe en Angleterre, Arsenal contre Manchester City. On retrouve tout de suite Philippe Auclair. Nous voici donc en Angleterre, on retrouve Philippe Auclair, notre spécialiste de Première Ligue, après un week-end où toutes nos certitudes ont encore valsé presque. Philippe, on en parlait la semaine dernière, on se disait que Manchester City était dans le dur et que c'était un simple faux pas pour Arsenal. Finalement, Arsenal a été tenu en échec par Brentford, City a renoué avec la victoire face à Aston Villa, et revoilà les Citizens à 3 points d'Arsenal. Est-ce que le championnat est relancé, Philippe, finalement?
Oui, on est bien obligé de le dire. On va sans doute changer d'avis toutes les semaines, parce qu'en fait, ce qui se passe en ce moment est assez curieux, parce que toutes les équipes dont on s'attend qu'elles prennent les 3 points chaque week-end, à chaque fois, on a 2 ou 3 surprises. À chaque fois, il y en a qui laissent des points en route. C'était le cas, par exemple, de Manchester United au milieu de semaine contre Leeds dans le premier match. On s'est dit, bon, voilà, ça y est, ça les met un petit peu en retard. Mais les voilà qui battent Leeds. Arsenal, on les voit qui tombent à Everton. qui avait également causé des problèmes à Manchester City, on s'en souvient. Mais et ça n'était le type de performance, je pense, qu'on a vu à l'Emirates ce samedi était différent de ce qu'on avait vu à Everton. Et je pense moins inquiétant pour Mikel Arteta. Okay. En ce sens qu'il y avait, surtout en seconde période, on a retrouvé du dynamisme, on a retrouvé du tempo. Mais aussi, il faut dire qu'en face, il y avait une équipe de Brentford qui était extrêmement difficile à manœuvrer, qui a créé des problèmes pour beaucoup d'autres grosses cylindrées du championnat d'Angleterre. Et qu'en fait, ça n'est pas une si énorme surprise que cela. En fait, on vit une saison dans laquelle ce ne sont pas véritablement des surprises, mais c'est plutôt qu'on est tellement, on est devenu tellement habitué à voir des équipes finir la saison avec 95 ou 98 points qu'on s'imagine que c'est nécessairement l'ordre normal, que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Cette saison, ça n'est pas le cas. D'une part, les outsiders comme Brentford ou Brighton sont en surperformance, on va dire ça comme ça. Et d'autre part, il n'y a pas un des seuls des candidats au titre qui n'ait pas quelques petits points faibles. Et donc, c'est une question de momentum, comme on dit, comme on dit en anglais, une question c'est l'élan. Et en l'occurrence, là, pour Arsenal, bon, ça tombe à un mauvais moment, bien évidemment, puisqu'il y a ce match de mercredi, donc je pense qu'on va dire deux mots, mais ça n'était pas catastrophique. D'autant plus que, comme tu le sais sans doute, il y a eu des décisions arbitrales extrêmement critiquées, dans la mesure où les gens qui s'occupent de la VAR n'ont pas fait le travail. Ils ont oublié même de tracer les lignes sur leur écran, ce qui paraît hallucinant. S'il l'avait fait, eh bien, le but égalisateur de Brentford n'aurait pas compté et on aurait un tout autre discours aujourd'hui. Donc, il n'y a pas péril en la demeure, mais bien évidemment, au niveau arithmétique, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, on va dire que si Manchester City venait à s'imposer mercredi soir, là, on commencerait à avoir des doutes, c'est vrai.
Ouais. Alors, justement, c'est le choc de mercredi soir. Déjà, une petite question, pas forcément sur le jeu, mais sur la programmation de ce match qui vient en concurrence frontale avec la Ligue des Champions. Et si on est très honnête, je suis prêt à parier que Arsenal-Manchester City aura plus d'audience à travers l'Europe que les matchs de mercredi en Ligue des Champions. C'est volontaire de la part de la Première Ligue ou c'est simplement que pour caler une date dans ce calendrier et c'était la seule dispo?
C'était la seule date disponible. C'est aussi bête que cela. On vit une saison très particulière. C'est en partie en raison de la tenue de la Coupe du Monde au Qatar au mois de novembre et au mois de décembre. Du coup, bien évidemment, le nombre de dates qui sont disponibles est extrêmement limité. Et je dirais même que c'est presque un petit miracle qu'on soit arrivé à trouver cette date-là pour un match d'une telle importance. Donc, ça n'est pas. Ne voyez surtout pas en cela, les amis, un complot de la Première Ligue pour. Ternir l'image de l'UEFA ou grimper à l'audimat et gratter quelques points d'audimat à nos amis de la Confédération européenne. Il n'y a absolument aucun complot.
Ok. Bon, alors on va parler terrain du coup, parce que ce choc pourrait être un des tournants de cette saison en Première Ligue. Manchester City, on en parlait la semaine passée, a retrouvé un peu d'allant offensif, a peut-être perdu Erling Haaland. Arsenal tenu en échec. C'est qui le favori de ce match ou est-ce que justement il n'y en a pas et c'est ce qui le rend si excitant?
Très honnêtement, a priori, on donnerait un léger avantage, un 51-49 à Manchester City, d'accord, a priori. Hein, sur la foi de ce que l'on a vu lors de ce week-end. Mais comme on aurait, si on avait fait ça il y a deux week-ends, on aurait eu plutôt Arsenal 60-40. C'est un match particulièrement difficile à prédire dans la mesure où, si l'on voit les problèmes qui se posent à Arsenal en ce moment, leur problème principal, c'est de jouer contre des équipes qui ont un bloc défensif bas. Ouais. Comme on l'a vu à Everton, comme on l'a vu avec Brentford, où souvent il y avait une ligne de 7, je dis bien 7 défenseurs qui étaient sur les 10 ou 12 mètres. Donc, extrêmement difficile à passer. Ça ne sera pas le cas contre Manchester City. Mm-hmm. Il y aura des espaces. Souvenons-nous du match, je pense, contre Manchester City de la saison passée, qui avait été sans doute le plus abouti de ce qu'avait proposé Mikel Arteta depuis son arrivée au club, malgré une défaite finalement, je crois, par 2-1, l'expulsion de Gabriel. Mais ils avaient remué et bougé cette équipe de Manchester City comme pratiquement aucune autre équipe n'a pu le faire. Ils ont donc les arguments pour ce faire. La question que je me pose, c'est une question que va se devoir se poser Mikel Arteta, il y a certains éléments des Gunners qui semblent, je dirais pas fatigués, mais dont les jambes sont un petit peu plus lourdes qu'elles l'étaient il y a 2 mois. Je pense par exemple à Gabriel Martinelli, qui est un pion essentiel dans cette équipe d'Arsenal. Je me pose la question de savoir si Leandro Trossard, qui a été très en vue quand il est entré en jeu, que ce soit contre Everton ou que ce soit contre Brentford, ne sera pas préféré sur le côté gauche. Et du côté de Manchester City, ma foi, c'est difficile. C'est difficile de dire parce que, par exemple, ils ont été très convaincants contre Aston Villa en première période.
Ouais.
Mais bon, ça n'était pas une énorme surprise. Villa, depuis, je crois, n'a pas gagné depuis City, contre City depuis 2013. Et justement, n'était pas exactement le type d'équipe dont on pouvait s'attendre à ce qu'elle cause des difficultés particulières à City sur son terrain, surtout vu la façon dont Manchester City est remonté, Pep Guardiola est remonté, ouais, après ce qui s'est passé lundi dernier.
Hein,
et qui, bien évidemment, il va utiliser dans son vestiaire pour dire « c'est nous contre eux, tout le monde est contre nous », etc. Mais en seconde période, ils n'ont pas été particulièrement convaincants. Et ils ont été, en fait, à une transversale de se retrouver tout d'un coup à 3-2 après avoir mené 3-0. Donc, c'est une équipe qui a encore... qui est cette année, qui présente des, je dirais pas des failles, mais des petites fissures dans son organisation défensive qu'on ne voyait pas auparavant, qui sont en partie dues au fait d'ailleurs que Guardiola continue de changer son back four de match en match, c'est ouais, quasiment jamais le même, et on sent, Ederson également est peut-être pas tout à fait aussi dominateur, il reste magnifique, hein, mais qu'il l'a été précédemment, et du coup on a deux équipes qui sont imparfaites, et quand on a des équipes qui sont imparfaites, évidemment, il devient beaucoup plus difficile de prédire ce qui va se passer. En ce qui me concerne, je crois que la principale chose, c'est que du côté des Gunners, ils vont être face à un adversaire qui va leur convenir beaucoup mieux,
ouais,
que des adversaires qui sont venus pour uniquement défendre et marquer un but en contre-attaque ou sur un coup de pied arrêté. Là, ça ne sera pas le cas. Et ça peut fonctionner à l'avantage des Gunners.
Ce qui m'intéresse un petit peu dans ce que tu dis, c'est les leviers utilisés par Guardiola ces derniers jours. On vous rappelle... la Première Ligue qui a communiqué lundi dernier sur des infractions, plus de 110, si je ne dis pas de bêtises, de Manchester
115,
City.
115, oui, absolument.
Voilà, exactement. Au règlement de la Première Ligue. Depuis, on a eu Guardiola qui a eu une séquence où il expliquait que c'était donc l'Angleterre contre Manchester City, que City n'était pas responsable de la glissade de Steven Gerrard, qui appréciera au passage. Est-ce que on va avoir ce narratif un petit peu développé par Guardiola jusqu'à la fin, et ce seul contre tous qui peut souder cette troupe qu'on trouvait désunie il y a quelques semaines?
C'est vrai qu'on trouvait un petit peu désunie, c'est vrai, qui n'a pas tout à fait la même cohésion qu'on a vu dans les années précédentes. Je pense que l'effet va s'atténuer, l'impact va s'atténuer au fil des semaines parce qu'on entre dans une toute autre période qui va être une période de délibérer en privé,
ouais,
rien ne va filtrer. Et donc, même s'il va y avoir des articles et des chroniques, etc., sur l'affaire, sur ce qui est reproché à Manchester City, et puis sur le comportement Pep Guardiola, qui, je m'excuse, était franchement à la limite de l'acceptable, puisqu'il s'en est pris nommément, notamment à Daniel Levy de Tottenham. Mmh. Il a cité 9 clubs. Enfin, il a dit des choses absolument qui étaient tout simplement pas vraies dans sa conférence de presse. Mais c'était en réponse à des questions, bien évidemment.
Mmh.
Et ces questions, à mon avis, vont être poussées un petit peu à l'arrière-plan au fil des semaines. Donc, on va retrouver une espèce de quotidien plus normal,
plus
dans lequel il y aura
que politique,
plus sportif. Oui, de temps à autre, il y aura toujours, bien évidemment, des non pas des allusions, mais des questions qui seront posées, simplement sur où est-ce que nous en sommes, etc. Mais les vraies questions, celles qui font mal, ont été posées lors de cette conférence de presse. Et on ne peut pas les poser, j'allais dire un petit peu malheureusement, à toutes les conférences de presse. Donc, les choses vont retrouver une certaine quiétude.
Okay.
Et donc, l'effet... d'augmentation de cohésion, en quelque sorte, au sein de Manchester City, à mon avis, c'est quelque chose qui est limité dans le temps. Il ne va pas pouvoir se servir de ça jusqu'à la fin de la saison. En a-t-il besoin, d'ailleurs, c'est la question qu'on peut se poser.
Ouais. Dernière petite question, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. On aura donc Arsenal City mercredi à 20h30 à l'Emirates Stadium, qui retrouve une forme de splendeur ces derniers mois, avec une vraie ambiance. Est-ce que ça va pleinement jouer dans cette course au titre, qu'Arsenal puisse s'appuyer sur son stade et dans cette ambiance qui pourrait avoir un rôle important dans ce choc?
Absolument. Je te l'ai dit déjà, je n'ai jamais connu une telle ambiance, que ce soit à Highbury ou à l'Emirates. C'est quand même quelque chose à dire ça. Et oui, ça va jouer un rôle, bien évidemment, comme ça a déjà joué un rôle. Il y a pas mal de matchs où Arsenal s'est retrouvé en difficulté, mené au score par exemple, ou tout d'un coup une égalisation qui arrive au pire moment. Et à tous les coups, ils ont su réagir. Et s'ils ont su réagir, c'est parce qu'il y a une communion entre ce public et leur équipe qui est totalement sans précédent, je dirais, dans l'Arsenal moderne. Okay. Et que je ne retrouve pas dans beaucoup d'autres clubs en ce moment. Peut-être Manchester United, c'est en train de prendre le même chemin avec les excellentes performances que l'on voit de semaine après semaine. Et d'ailleurs, au passage, Manchester United, ne pas les oublier dans la course au titre. Ils sont derrière, mais ils reviennent. Hein, rien ne sert de courir, il faut arriver à point et tout genre de choses, même s'ils ne sont pas des tortues. Et donc, du coup, il peut y avoir en effet un impact profond. Il va falloir qu'il y ait cet impact de toute façon. Mais si on voit, par exemple, la réaction face au match nul contre Brentford, venant après une défaite très décevante à Everton, eh bien, le stade était encore au 4-5e plein au coup de sifflet final lorsque les joueurs sont venus les saluer.
D'accord.
Ça n'était pas le cas auparavant. Ouais. Il y a vraiment quelque chose. Là, on peut parler de cohésion entre un groupe de supporters et un groupe de joueurs et leur manager, dont le nom a été chanté, je ne sais pas, 5-6 fois dans ce match. Donc oui, tu as raison, ça peut jouer et ça devrait jouer un rôle très important. Donc, je modifie mon 51-49.
En 50,
plutôt, je garde mon 51-49, mais j'intervertis les parties.
D'accord, bon, bah, très bien. Et ben, on sera devant notre télé mercredi pour ce choc Arsenal-Manchester City. Merci beaucoup, Philippe. Et nous, on va s'envoler pour l'Italie pour parler de Paul Pogba. Et allez, on termine ce tour d'Europe par l'Italie, qu'on n'a pas encore été salué en 2023. On accueille Guillaume Maier-Pacini, notre spécialiste du football italien. Comment ça va, Guillaume, j'ai envie de dire début d'année, mais on est déjà en février. Donc, comment ça va à la veille de la Saint-Valentin, toi que je sais si romantique?
Écoute, Cyril, tout va bien. Vous m'avez manqué. Donc voilà, à la veille de la Saint-Valentin, comme tu dis, un peu de romantisme en disant que tu m'avais manqué, que Tour d'Europe m'avait manqué. Et que j'ai hâte de parler d'un sujet un peu moins romantique. Et je te laisse introduire. Et je sais qu'en Italie, c'est assez épineux pour le coup.
Alors lui, pour le coup, il manque à la Juventus. C'est Paul Pogba. L'épineux qu'a Paul Pogba, puisque le Français n'a toujours pas joué depuis son transfert libre l'été dernier à la Juve. Aucun match officiel. Et on s'est même amusé à regarder le dernier match disputé. C'est en avril 2022 contre Liverpool. Alors, il avait rejoué en amical contre les U23 de la Juve en début d'année. Mais j'imagine qu'en Italie, ça commence à agacer un petit peu l'indisponibilité de Paul Pogba, Guillaume.
Bah écoute, c'est assez dingue de se dire que Pogba, quand même, n'a toujours pas joué une minute. Tu l'as dit, il a fait un amical en janvier, il avait fait un amical au mois d'août. Mais c'est vrai qu'entre-temps, on ne l'a pas vu une fois. Il est revenu sur le banc contre Monza, c'était la semaine dernière. Mais voilà, il n'est jamais parvenu à même entrer en jeu rien que 10 secondes. Et c'est vrai que forcément… C'est un cas qui fait parler parce que Pogba, ça reste quand même un grand nom du football mondial et évidemment du football italien. Tu te souviens, Cyril, sa première période à la Juve qui était très bonne. C'était d'ailleurs le meilleur Pogba qu'on avait vu à la Juve à l'époque. Et c'est certain que c'est un cas qui crispe à la Juve parce qu'il y a eu un investissement quand même qui a été fait sur le joueur. Il est arrivé gratuitement, ça on s'en rappelle, parce qu'il était en fin de contrat avec Manchester. Mais la Juve quand même en salaire, sans parler de la commission qu'avait reçu son agent, c'est quand même un salaire de 8 millions d'euros plus 2 de bonus.
Ouais.
Donc, c'est le plus gros salaire de la Juve. Donc, forcément, quand tu as un joueur qui est ton meilleur salaire, que tu as tout fait pour ramener l'été dernier, parce qu'on rappelle que la Juve quand même était déjà dans une situation délicate au niveau financier. Elle voulait quand même baisser sa masse salariale. Donc, quand tu fais un effort financier pour lui et que derrière, on va dire que tu n'as pas le retour sur investissement parce qu'il n'a toujours pas joué une minute… forcément, c'est compliqué et on pourrait revenir aussi très rapidement sur le pré-Coupe du Monde au moment où Pogba avait décidé de ne pas se faire opérer.
Ouais, de tout faire pour être présent.
Contrairement à la vie médicale de la Juve qui lui avait dit « Écoute, pour nous, c'est mieux que tu te fasses opérer à l'époque du genou », lui avait dit non parce que sinon, je vais rater le mondial. Et à la fin, voilà, après plusieurs semaines, il s'était ravisé. Il a dit « Bon, bah oui, finalement, je vais devoir me faire opérer ». Résultat, il a manqué le mondial. Il a manqué tous les matchs avec la Juve et le fait qu'aujourd'hui, il s'est reblessé à la cuisse et il n'y a toujours pas de match joué pour Pogba.
On a lu les déclats d'Allegri en conférence de presse, qui est à la fois dépité, énervé et résigné. Il est toujours blessé et je ne sais pas quand est-ce qu'il sera de retour. Je l'attends. Est-ce que Paul Pogba va jouer une minute cette saison, en fait, Guillaume ? On en vient à se poser cette question-là.
Écoute, le problème, c'est que, tu vois, là, il s'est blessé à la cuisse, c'est qu'on s'attendait peut-être à quelques jours, une semaine. Et quand Allegri, samedi, a annoncé ça en conférence de presse, ça a quand même jeté à froid parce qu'on ne se doutait pas quand même que Pogba, Allegri avait quasiment 20 jours de plus. Donc, la question forcément se pose. Alors, on n'en rigolerait pas sur l'Italie en disant, bon, cette fois, c'est quand même la bonne. On l'avait vu sur le banc contre Monza, donc on s'est dit, bon, il va peut-être rentrer au moins 5 minutes. Et le fait est que toujours pas, lui, même sur les réseaux sociaux, il entretient un peu le suspense où dès qu'il revient à l'entraînement, dès qu'il retouche le ballon, ben voilà, il publie beaucoup de choses sur ses réseaux aussi pour rassurer les supporters. Parce que tu parlais d'Allegri, on pourrait parler des dirigeants qui sont forcément agacés, mais les supporters aussi, qui se demandent, mais qu'est-ce qu'on a recruté? Est-ce que c'est Pogba? Est-ce que c'est le fantôme de Pogba? Donc voilà, on savait qu'il était sujet aux blessures, mais à ce point-là, quand même, on ne s'en doutait pas. Donc, c'est un sujet qui crispe entraîneur, dirigeant, supporter. Le joueur lui-même n'est pas forcément à l'aise avec sa situation parce qu'il le sait. C'est un moment compliqué pour lui. Faut rappeler, Cyril, que l'équipe de France quand même est toujours là. Hein. Il ne l'a pas abandonné. Il rêve toujours d'y retourner. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un cas qui crispe pour toutes ces raisons-là parce que c'est une gestion qui est mal gérée justement par lui, par son entourage. Et la Juve derrière qui en paye les pots cassés.
Est-ce que, dernière petite question, du côté d'Allegri, on attend Pogba en sauveur pour sa Juve ou est-ce que désormais il a trouvé, depuis le temps, il a fallu s'adapter, son milieu de terrain tourne et finalement Pogba, on prendra le temps de lui permettre de retrouver le rythme ou est-ce qu'on en aura besoin immédiatement pour la Juve pour avoir un gap qualitatif immédiat ?
Bon, écoute, on a appris à vivre sans Pogba maintenant à la Juve parce qu'on n'a pas vécu avec lui. Du coup, forcément. De s'adapter. Il y a beaucoup de jeunes, comme tu as pu le voir, qui ont éclos, comme Miretti, Fagioli. Il y a Paredes qui est là aussi, mais on le sait qu'il va repartir au PSG en fin d'année parce que c'est pas un excellent milieu de terrain pour la Juve. Mais forcément, on attend Pogba parce qu'il était censé être quand même le leader de cette Juve-là. Tu sais, quand il est revenu cet été, quand même, on a parlé de lui comme possible capitaine. Donc voilà, on attendait beaucoup, beaucoup de lui. Aujourd'hui, voilà, on apprend à vivre sans. Il y a eu quelques rumeurs sur le fait que la Juve pourrait songer à s'en séparer l'été prochain si la situation perdurait. Donc, c'est te dire aussi le niveau d'agacement qu'il peut y avoir à la Juve autour du cas Pogba. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, voilà, la Juve l'attend, forcément, parce que ça reste Paul Pogba, mais elle ne l'attendra pas indéfiniment parce que la Juve est pressée. La Juve, tu le sais, est dans une situation compliquée aussi par rapport au niveau comptable. Elle a une Juve de moins 15 points. Elle a plusieurs affaires judiciaires aussi qui vont être jugées dans les prochains mois. Donc, toute la situation fait que la Juve ne peut pas se permettre d'attendre Pogba. Elle va voir l'évolution de la situation. Elle espère compter sur lui avant la fin de la saison parce que terminer la saison sans voir Paul Pogba, rien qu'une minute, voire qu'un match, ce serait une situation assez, assez lunaire. Il y a la Ligue Europa, Cyril, pour le rappeler, contre le FC Nantes, justement, jeudi. Donc, Paul Pogba ne sera probablement pas là à l'aller. Au retour, on verra bien. Mais voilà, on compte toujours sur lui, mais on ne pourra pas l'attendre indéfiniment parce qu'on est quand même le 13 février aujourd'hui. Ouais. Et ça paraîtrait quand même quasiment incroyable de ne pas voir Paul Pogba au moins une fois en match officiel sous le maillot de la Juve. On terminera sur ça, Cyril. Le dernier match sous le maillot de la Juve de Paul Pogba, ça remonte à 2016. Voilà, et quand tu sais qu'il est revenu les derniers, voilà, c'est assez dingue de se dire que Paul Pogba n'a toujours pas porté le maillot de la Juve cette saison.
Eh ben, merci beaucoup, Guillaume. Tu nous avais manqué aussi. Rassure-toi, ravi de te retrouver dans Tour d'Europe. Sachez aussi qu'on évoquera évidemment dans les semaines qui viennent l'incroyable Napoli en route vers le titre. Donc, on se donne rendez-vous très bientôt, Guillaume. C'est la fin de ce numéro de Tour d'Europe. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.